Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers frères, mes bien chers amis, avant que de commencer ce cours, je vous rappelle les retraites. J'insiste là-dessus parce que je connais l'importance de ces retraites et à quel point elles peuvent aider les âmes. Donc je viens d'avoir une annulation pour la retraite du mois de juin, donc j'ai une place pour celle du mois de juin. Donc j'ai encore quelques places pour la deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième retraite. Toutes les retraites sauf la première qui est pleine. Donc j'ai de nouveau une place pour celle du 6 juin ou en juin, une place pour toutes les autres retraites sauf la retraite de Semaine Sainte, encore une fois, qui est pleine. Donc nous avançons dans les explications des Pères de l'Église sur le chapitre 6 de Saint Jean. Nous en sommes au verset 15 à 21. Je vous rappelle le texte que nous commentons, parce que je n'ai pas terminé ces explications. Jésus, donc sur le polycopier, qui contient les commentaires des Pères de l'Église, les chapitres 6 à 10, on est à la page 4, hein, en bas de la page. Voilà le texte de l'Évangile. Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, s'enfuit de nouveau tout seul sur la montagne. Lorsque le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant monté dans une barque, il s'avançait vers Capharnaüm de l'autre côté de la mer. Or, il faisait déjà nuit et Jésus n'était pas venu avec eux. Cependant, la mer se soulevait au souffle d'un grand vent. Et lorsqu'ils eurent ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus qui marchait sur la mer et qui s'approchait de la barque. Et ils eurent peur. Il leur dit, c'est moi, ne craignez point. Ils voulurent alors le prendre dans la barque et aussitôt la barque se trouva au lieu où ils allaient. Donc j'ai expliqué la dernière fois, en suivant les pères, que ici, il y a trois miracles qui sont réunis. Jésus d'abord qui marche sur la mer, qui calme de la fureur des flots, deuxième miracle. Et troisième miracle qui fait aborder la barque aussitôt au rivage dont les disciples étaient encore fort éloignés lorsque le Seigneur leur apparut. Alors, ici une phrase magnifique des pères. Donc, les pères expliquent d'abord que notre Seigneur choisit les hommes sans lettres. C'est un texte de Saint Jérôme, afin de bien établir que la foi qu'il vient donner aux âmes n'est pas l'œuvre de la science, n'est pas une œuvre humaine. Tout ce qu'il possède et tout ce qu'il transmet aux âmes, ils l'auront reçu de lui. Tout ce qu'ils seront, ils le seront par lui. Donc, on ne donne rien qu'on ait reçu. Hein? C'est quelque chose de très important. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Nemo dat quod non habet, disait Saint Thomas. Donc, les apôtres vont transmettre ce qu'ils ont reçu de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a rien de personnel. Ils ne transmettent pas une opinion personnelle. C'est un argument extrêmement fréquent, une objection qu'on entend tout le temps dans le monde moderne, mais dans l'Église catholique, vous contentez de répéter comme des perroquets ce que les devanciers ont enseigné. Pourquoi est-ce que vous n'utilisez pas votre intelligence pour faire des choses nouvelles? Mais notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas d'âge. Dieu n'a pas d'âge puisqu'il est éternel. Donc la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ, du début de l'histoire de l'Église, il y a 2000 ans, est la même que celle d'aujourd'hui et sera la même dans 10 siècles. On n'a pas besoin d'adapter le monde, d'adapter l'Église au monde. C'est le monde qui doit s'adapter à l'Église, sinon le monde mourra, c'est aussi simple que cela. Donc voilà ce texte très beau, je vous le lis en bas de la page 4. Ils cherchaient dans la mer un gain médiocre. Ils ont trouvé celui qui est la vie. Ils ont abandonné une barque et ils ont trouvé Dieu. Ils ont laissé leurs avirons, ils ont trouvé le Verbe. Ils ont laissé leur cordage, ils ont trouvé les liens de la foi. Ils ont laissé reposer leurs filets, ils ont pris des hommes. Ils ont délaissé la mer, ils ont trouvé le ciel. Ils quittent ces flots et ils se sont ballottés, ou ils sont ballottés pour établir sur la pierre inébranlable des âmes agitées jusqu'à la part d'erreur. Ils abandonnent leur barque et deviennent les conducteurs de la barque de l'Église. Ils n'apportent plus de poissons à la ville, mais ils portent des hommes au ciel. Ils abandonnent leur père, mais deviennent les pères spirituels de tous les fidèles. Rappelez-vous ce qu'a dit notre Seigneur Jésus-Christ à ses apôtres tout à fait au début, lorsqu'il les a appelés pour les sortir du monde. Désormais, vous serez pêcheurs d'hommes. Vous étiez pêcheurs de poissons, vous allez devenir pêcheurs d'hommes. Et ici, c'est exactement ce que disent les pères. Donc, ils abandonnent quelque chose de matériel pour trouver quelque chose de spirituel. Ils abandonnent quelque chose d'imparfait pour trouver quelque chose de parfait. Ils abandonnent quelque chose de temporel pour trouver quelque chose d'éternel. Donc, il faut méditer là-dessus. Notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui nous donne la vie, qui nous donne le Verbe, qui nous donne la divinité, puisqu'il est Dieu, qui nous tisse les liens de la foi, qui nous amène à la porte du ciel et qui nous fait abandonner l'erreur. Donc, la résumé dans cette phrase, ils n'apportent plus de poissons à la ville comme pêcheurs, ils portent des hommes au ciel. Ils abandonnent leur père, mais deviennent les pères spirituels de tous les fidèles. Et c'est dans la mesure où les apôtres sont fidèles à cette injonction de notre Seigneur Jésus-Christ qu'ils vont devenir les instruments de la divinité. Mais dès que si les apôtres abandonnaient ce principe pour essayer de prêcher leur propre doctrine, il n'y aurait plus rien. On le voit très bien aujourd'hui. Pourquoi l'Église de Vatican II s'enfonce-t-elle dans un marasme absolument invraisemblable? C'est parce qu'ils ont voulu commencer à prêcher des choses nouvelles. Ils ont voulu commencer à prêcher l'homme au lieu de prêcher Dieu. Même si le monde moderne n'accepte plus, en général, l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ, cela ne doit jamais nous pousser à changer l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Le monde moderne n'en veut plus, tant pis pour lui, ils vont continuer de prêcher. Et s'il n'y a que très peu de personnes qui comprennent le témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ, bien on prêche pour ces très peu de personnes. Et notre Seigneur Jésus-Christ a parlé d'un petit troupeau, n'oubliez pas ce qu'il a dit sur nos temps, certainement dans lesquels nous vivons. Il disait à la fin des temps, lorsque je reviendrai, qui sait si je trouverai encore la foi. Donc il a parlé d'un petit troupeau. Rappelez-vous la prophétie du cardinal Pie, que l'Église allait être réduite à des dimensions domestiques. Bon, on ne cherche pas le monde. Le nombre, on cherche la qualité, non pas la quantité. Si Dieu donne la quantité, très bien. Mais s'il ne donne pas la quantité, qui donne la qualité? Eh bien, la qualité, c'est mieux que la quantité. Il vaut mieux avoir des églises peut-être à moitié vides ou presque vides, des toutes petites chapelles, tout petits oratoires avec des gens pleins de ferveur qui vont aller au ciel, plutôt que d'avoir des églises pleines de gens superficiels qui refusent de se transformer, qui refusent de changer, qui refusent de se convertir et qui vont tous tomber en enfer. Rappelez-vous la prophétie de notre Seigneur, pendant qu'il écrit cette prophétie, large est la voie qui mène à la damnation. Et nombreux sont ceux qui la prennent. Étroite et resserrée, la porte, la voie qui mène à la porte du ciel, et peu nombreux sont ceux qui la prennent. Donc attention à ça, ne cherchons pas, il ne faut pas juger les textes des évangiles avec des notions humaines. On est là pour aller au ciel, c'est le but de la manœuvre. Autre texte, un texte de saint Augustin en bas de la page 4. Les deux naissances du Christ sont ici indiquées, nous dit encore saint Augustin, la naissance divine et la naissance humaine. L'une qui est la source de notre création et l'autre la cause de notre rénovation. Donc on voit très bien, notre Seigneur Jésus-Christ, toujours, pendant qu'il était sur la terre, la nature humaine et la nature divine. Lorsqu'il mange avec ses disciples, par exemple, au mariage de Cana, c'est la nature humaine que nous voyons. Lorsqu'il s'assit fatigué sur la margelle du puits de Jacob, c'est la nature humaine de notre Seigneur que nous voyons. Mais lorsque notre Seigneur Jésus-Christ convertit la Samaritaine, ou lorsque notre Seigneur Jésus-Christ change l'eau en vin, là, c'est la nature divine que nous voyons. Donc, je répète cette phrase. Donc, les deux naissances du Christ sont ici indiquées, toutes deux admirables, l'une sans mère, l'autre sans père. Dieu a voulu être le Fils de l'homme, il a voulu que les hommes devinrent ses enfants de Dieu. Il est descendu à cause de nous, montons donc à cause de lui. Rappelez-vous cette belle phrase de saint Augustin que je cite souvent en sermon. Dieu s'est fait homme pour que l'homme puisse devenir Dieu. Bon, c'est évident que c'est une phrase qu'il faut expliquer. Il ne faut pas utiliser un porte-pièce. N'importe comment, il faut réfléchir. Il faut bien expliquer aux gens. Mais Dieu se fait homme pour que l'homme puisse monter, remonter vers le sommet de la montagne d'où il est tombé. Il était au sommet de la montagne au moment de la création par Dieu d'Adam et Ève. Et puis, avec le péché originel, il est descendu dans les bas-fonds. Et notre Seigneur Jésus-Christ se fait homme, prend la nature humaine par le mystère de l'incarnation pour nous monter vers lui, nous monter vers le sommet de la montagne. Le sommet de la montagne, c'est le ciel. Donc, Dieu a voulu être le Fils de l'homme, c'est-à-dire il a pris l'humanité et il a voulu que les hommes devinssent les enfants de Dieu pour donner aux hommes la possibilité de venir, d'être transformés à la ressemblance de Dieu. Rappelez-vous ce que j'ai souvent expliqué, tous les hommes sont créés à l'image de Dieu, tous, parce que tous les hommes ont une âme, une puissance spirituelle capable de connaître le bien et de posséder. Mais tous les hommes ne sont pas créés à la ressemblance de Dieu, et beaucoup d'hommes passeront 80 ou 90 ans sur cette terre, peut-être sans même savoir pourquoi ils ont été élevés sur la terre. Un gaspillage de temps, un gaspillage de vie, un gaspillage d'âme totale. C'est ça le drame. Le drame, il est là. Et c'est pas lorsque les gens sont avec leur corps sous 3 pieds de terre, dans un cercueil, au fond d'un cimetière, qu'ils vont commencer à penser à ces choses-là. À ces choses-là, c'est un peu tard, il faut y penser maintenant. Donc si nous acceptons de nous humilier, si nous acceptons de nous soumettre à l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ peut littéralement nous prendre par la main et nous monter vers le ciel. On le voit très bien chez les apôtres, il y a encore un manque de foi chez les apôtres, hein. Nous sommes longtemps avant la Pentecôte, ils n'ont pas encore tout compris. C'est pour cela que les apôtres paniquent littéralement. Il dit au verset 19 du chapitre 6 de Saint Jean que lorsqu'ils virent Jésus qui marchait sur la mer, qui s'approchait de la barque, au lieu de se réjouir de voir ce miracle extraordinaire de notre Seigneur Jésus-Christ, ils ont peur. Ils ont peur parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils n'ont pas encore vu qu'ici, notre Seigneur Jésus-Christ leur donne une preuve supplémentaire de sa divinité. Autre phrase magnifique des pères. Dieu a fait en effet des disciples qui, tout en demeurant sur terre, habitent dans le ciel. Qui, avec l'apôtre Saint Paul, disent notre vie est dans le ciel. Donc on a les 2 pieds sur la terre et la tête vers le ciel. Vous voyez? Voilà le premier des secrets célestes qu'il révèle à ce croyant à qui il se confie. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, encore une fois, est plein d'amour pour celui qui écoute sa parole et qui la suit. Nul ne remontera au ciel que celui qui est descendu du ciel. Mais tout ce qui lui appartiendra remontera avec lui. Le grand secret pour aller au ciel, c'est d'appartenir au Christ. Voyez, donc il faut bien comprendre ces choses-là. Notre Seigneur Jésus-Christ se fait tout petit pour que nous puissions devenir grands. Notre Seigneur Jésus-Christ prend la nature humaine, une nature humaine périssable. Il aurait pu prendre une nature humaine immortelle. Non, il a voulu prendre une nature humaine mortelle. Il a abandonné les privilèges des anges. Il a même créé un corps, puisque avant l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ, le corps de notre Seigneur Jésus-Christ plutôt n'existait pas. Il a voulu prendre un corps pour nous montrer justement à quel point il voulait devenir semblable à nous en toutes choses. Et notre Seigneur est semblable à nous en toutes choses, sauf évidemment le péché. Et donc notre Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il veut? Il veut qu'on remonte avec lui au ciel. Tout ce qui lui appartiendra remontera avec lui. Notre Seigneur Jésus-Christ qui monte au ciel, il prend du monde avec lui. Et c'est la même chose pour nous d'ailleurs. On dit que lorsque quelqu'un monte au ciel, en général, il ne monte pas tout seul. Il prend pas mal de gens, pas mal d'âmes dans ses poches. Quand un père de famille monte au ciel, certainement, il va monter au ciel avec une partie de sa famille. Sans doute son épouse, j'espère, et peut-être ses enfants. Mais là, si ce père de famille tombe en enfer, en général, il ne tombe pas tout seul. Il va emmener aussi dans son sac à dos, il va emmener une partie de sa famille à cause du mauvais exemple qu'il leur a donné et qu'il a amené vers le. La conduit vers l'enfer. En général, quand un père de famille se damne, il ne se damne pas tout seul. Il va se damner avec sa femme et ses enfants, très souvent. Et donc, il faut demander ses grâces. C'est la même chose pour nous, prêtres, je vous dis tout de suite. Il n'y a pas que les pères de famille. Les prêtres, c'est pareil. Quand un prêtre se sauve, quand un prêtre fait son travail, quand un prêtre se sanctifie par ses obligations sacerdotales, il va monter au ciel, mais il va monter au ciel avec pas mal de monde. Hélas, quand un prêtre refuse de remplir ses fonctions, de remplir son devoir d'État et vit comme un homme du monde, vit comme un prêtre, eh bien il va tomber en enfer. En général, il ne va pas y tomber tout seul, il va emmener avec une bonne partie de la paroisse. Regardez le bien qu'ont fait tous les saints prêtres. Imaginez le bien, le nombre d'âmes qui se sont sauvées, par exemple, par le ministère de Saint-Curé d'Ars. Mais imaginez le nombre d'âmes qui se sont perdues par le mauvais ministère de Luther. Luther aussi était un prêtre. Et si Luther s'était sanctifié, au lieu de tomber dans l'orgueil, mais il aurait peut-être sauvé autant d'âmes que Saint-Curé d'Ars. Et donc il faut vraiment se maintenir dans l'humilité, parce que si on peut faire quelque chose pour la grâce, pour le bon Dieu, et amener des âmes au ciel, c'est parce que le bon Dieu nous utilise comme des instruments. C'est dans la mesure où on est humble que le bon Dieu pourra nous utiliser comme un instrument. Comment voulez-vous que le bon Dieu utilise chacun d'entre nous comme un instrument si nous sommes bouffis d'orgueil? Pas possible. Donc il y a deux choses dans le pécheur, disent les pères, en haut de la page 5. L'homme et le pécheur. L'homme a été fait par Dieu, mais le pécheur, c'est vous qui l'avez fait. Il faut que vous haïssiez en vous votre œuvre, afin d'aimer en vous l'œuvre de Dieu. Donc tout ce qui est en nous de bon vient de Dieu, tout ce qui est en nous de mauvais vient de nous-mêmes. Donc la seule chose que nous sommes capables de faire par nous-mêmes, c'est des bêtises. On est doué pour ça. Moi, le premier. Par contre, dès que le bon Dieu prend possession d'une volonté, quand librement nous donnons à Dieu accès à notre volonté, à ce moment-là, il peut faire des merveilles. Vous voyez? Comme un bateau, on barre souvent l'âme, une petite coque de noix qui, en pleine tempête, on ne sait plus quoi faire parce que le capitaine de bord n'arrive vraiment plus à diriger la barque, s'il y a trop de vent, il y a des courants partout, on va droit sur les récifs, c'est la catastrophe. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, c'est l'évangile d'aujourd'hui, voilà que les disciples qui sont en panique parce que la tempête est là, ils vont prendre notre Seigneur Jésus-Christ dans la barque, parce que notre Seigneur Jésus-Christ marche sur la mer, s'approche de la barque, ils vont le prendre dans la barque, et dès qu'il monte dans la barque, le calme se fait. Dès qu'il monte dans la barque se trouvera au lieu où ils allaient. Donc ce qu'il faut, c'est avoir le courage, quand on est en perdition comme ça, de dire, appelez le bon Dieu, venez vite prendre la barque, parce que je ne suis pas capable de faire mon travail, là, je n'arrive plus à diriger le navire. Prenez la barre, et notre Seigneur Jésus-Christ va venir, et si on le laisse rentrer, si on le laisse monter à bord, il va prendre la barre, et avec notre Seigneur Jésus-Christ à la barre, on n'a plus rien à craindre. Le vent va se calmer, les vagues vont s'aplatir, et notre Seigneur Jésus-Christ va pouvoir nous mener au port. Vous voyez, n'oubliez pas que cette barque, c'est pas simplement la barque de l'Église, donc qui passe la tempête la plus complète par toutes les hérésies contre elle, au calme, justement, à partir du moment où notre Seigneur Jésus-Christ dirige son Église. Et cette barque, c'est aussi notre âme. Donc cette barque est en pleine tempête au moment des tentations, parce que le démon est déchaîné contre nous. Et en même temps, cette barque, cette petite barque de notre âme, va pouvoir retrouver son calme si on accepte que notre Seigneur Jésus-Christ monte dans la barque. Mais il faut accepter le monter dans la barque. Le seul problème, c'est que dans bien des cas, on refuse notre Seigneur Jésus-Christ. On ne veut pas qu'il monte dans la barque parce qu'on a l'impression qu'on est capable de faire le travail par nous-mêmes. Malheur à nous, si nous faisons ça, il faut accepter avec humilité que notre Seigneur Jésus-Christ puisse monter dans la barque. Alors, le calme se fera. Mais si notre Seigneur Jésus-Christ ne monte pas dans la barque, il n'y a aucune paix qui se fera. Ça, c'est sûr que non. Donc, tout ce qu'il y a en nous de bon, c'est Dieu qui le met. Pas nous-mêmes, c'est capable que de faire des bêtises. La phrase ici des pères, l'homme a été fait par Dieu, mais le pécheur, c'est vous qui l'avez fait. Souvent, les gens me posent la question, monsieur l'abbé, comment se fait-il qu'il y ait tant de mal, de tant de maux dans le monde moderne? Mais attendez, le mal et la mort, et la maladie et le péché, c'est pas Dieu qui a fait ça. C'est pas Dieu qui a amené la mort. C'est pas Dieu qui a amené les guerres. C'est pas Dieu qui a amené les maladies terribles. C'est l'homme. Avant la faute originelle, Adam et Ève vivaient dans la paix, il n'y avait pas de guerre. Les pères de l'Église, même beaucoup de pères de l'Église, pensent qu'avant le péché originel, il n'y avait même pas de il n'y avait même plus de nécessité pour les Adam et Ève de plus exactement, les pères de l'Église disent qu'avant le péché originel, il n'y avait pas de bagarre entre les animaux eux-mêmes. que l'agneau et le lion pouvaient coucher ensemble sur la même paille, dans la même grotte, sans s'entretuer, sans que le lion ne cherche à dévorer l'agneau. Vous voyez? Il y en a qui disent, je ne sais pas si c'est vrai, mais que avant le péché originel, il n'y avait pas de mouches pour nous ennuyer, nous empêcher de dormir la nuit, ou des moustiques pour nous piquer. Non, tout ça était dans l'ordre. Et c'est malheureusement le péché originel qui a introduit cette violence que la nature a voulu entre les animaux. Des animaux qui sont en dessous de l'échelle alimentaire, les animaux qui sont au-dessus de l'échelle alimentaire, et ceux qui sont au-dessus mangent ceux qui sont en dessous. Et que vraisemblablement, cela n'existait pas avant le péché originel. C'est possible. Je ne pense pas que ce soit de foi, ça n'a jamais été défini par l'Église, mais c'est tout à fait possible parce que tout était dans un ordre parfait avant le péché originel. C'est l'homme qui a amené ce désordre. Donc, conclusion des pères, il faut que vous haïssiez en vous votre œuvre afin d'aimer en vous l'œuvre de Dieu. Donc, pour que Dieu puisse faire son travail dans notre âme, il faut que je haïsse mon œuvre personnelle. Et mon œuvre personnelle, c'est laquelle? Mon œuvre personnelle, c'est le péché. Mon œuvre personnelle, c'est la désobéissance par rapport à Dieu. Donc il faut que je déteste mon œuvre pour que je puisse aimer l'œuvre de Dieu. Il faut que j'accepte d'ouvrir la porte de mon âme pour que Dieu puisse mettre en dehors de mon âme toutes les choses secondaires qui n'ont aucune importance. Il faut que Dieu puisse, il faut que j'accepte d'ouvrir la porte de mon âme pour que Dieu puisse rentrer dans mon âme et vider mon âme de toutes les choses secondaires. Pour faire de la place pour les choses importantes. C'est ça le drame du monde moderne. C'est que le monde moderne, dans les âmes du monde moderne, les âmes mondaines, elles sont pleines de choses secondaires, plus de place pour les choses importantes. Alors les enfants, les adolescents, même passent des heures et des heures par jour à jouer avec des petits jeux vidéo, puis ils sont capables de passer 5 minutes à prier parce que pour eux, les jeux vidéo, c'est devenu leur Dieu. Vous voyez? C'est un beau texte, je crois que c'est saint Augustin. C'est sa puissance qui vous a créé. C'est sa faiblesse qui vous a relevé. La puissance du Christ a fait ce qui n'était pas que ce qui n'était pas fut. Et la faiblesse du Christ a fait que ce qui était ne périt pas. Il nous a créé dans la puissance, il est venu à notre recherche dans sa faiblesse. La faiblesse du Christ, c'est son humanité. La puissance du Christ, c'est sa divinité. Donc la divinité du Christ a fait que ce qui n'était pas fut. L'humanité du Christ a fait que ce qui était ne périt pas. Donc notre Seigneur Jésus-Christ devient semblable à nous, prend un corps comme le nôtre. Vous voyez un petit peu l'humiliation pour un Dieu créateur du ciel et de la terre, de s'abaisser à devenir un corps, à prendre un corps humain. Mais notre Seigneur Jésus-Christ prend un corps humain afin de relever justement les choses que l'homme a détraquées par son péché, par sa révolte, par son orgueil. Je rappelle cette phrase qui est très belle. Sa puissance qui vous a créé, sa faiblesse qui vous relève. La puissance du Christ a fait que ce qui n'était pas fut, la faiblesse du Christ a fait que ce qui était ne périt pas. Donc il faut demander vraiment au bon Dieu la vertu d'humilité. On voit très bien dans toutes les révoltes, toute l'histoire de la révolte de l'homme contre Dieu, c'est l'histoire de la révolution, on voit tout est basé sur l'orgueil. Tout, tout, tout. Depuis la première révolte, Lucifer. Je ne servirai pas. La révolte de Adam et Ève, Dieu avait dit, tu ne toucheras pas l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal. Eh bien, trompés par le démon, Ève puis Adam ont désobéi. Ils ont pensé qu'ils en savaient mieux, ils savaient plus que le bon Dieu. Ils ont désobéi, vous voyez les conséquences. Et après tout le reste, c'est l'orgueil. Alors on voit en même temps une contre-révolution qui s'opère dans le monde. Le monde monte malgré tout cela avec la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais n'oubliez pas qu'entre le péché originel et la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est passé 7000 ans. Hein. Ça fait long. Il s'est passé 7000 ans. Notre Seigneur Jésus-Christ arrive et lentement va remonter l'homme sur pied, va remonter l'homme qui était tombé au fond du gouffre. Il va commencer à le remonter. Il va prouver sa divinité par tous les miracles, il va prouver sa divinité par l'accomplissement des prophéties, il va continuer de monter l'homme. Et il va le monter, le plus haut degré de civilisation chrétienne, c'est de très loin le 13e siècle. Sur mon prochain sermon, le sermon sur le dimanche prochain, pour le troisième dimanche de Carême, je vais prêcher sur Saint Thomas d'Aquin. Donc c'était la fête le. C'était la fête le 7 mars. J'ai pas eu le temps d'en parler, alors je vais en parler un petit peu parce que j'aime beaucoup ce saint. Saint Thomas d'Aquin, justement, avait très bien compris toutes ces choses-là et cette extraordinaire humilité chez Saint Thomas d'Aquin. Donc, le siècle de saint Thomas d'Aquin, c'est le plus grand siècle, la plus haute. Jamais la civilisation en Europe, au moins, n'a été aussi proche de la perfection qu'au temps de saint Thomas d'Aquin. C'est pour ça qu'on dit que la mort de saint Thomas d'Aquin, en 1274, marque l'apex, si vous voulez, le sommet jamais atteint par la civilisation. Et à la mort de saint Thomas d'Aquin, en 1274, c'est le début de la dégringolade. Déjà tout de suite, c'est la révolte qui reprend. Donc l'Église, pendant toute la montée, si vous voulez, montée en puissance de l'Église sur les âmes, a amené les âmes à pratiquer la vertu d'humilité. Ça monte, ça monte, ça monte jusqu'au XIIIe siècle, imaginez. À l'époque, c'était Saint-Louis qui était roi de France. Hein. Il y avait tous ces rois. Il y avait Saint-Ferdinand en Espagne, il y avait Saint-Othon en Allemagne, Saint-Édouard un peu avant, un peu après, je ne sais plus, en Angleterre, etc. On voit cette montée, et puis avec la mort de saint Thomas, malheureusement, le subjectivisme va refaire surface, et ça va être le début de la descente en enfer, d'abord par la Renaissance. La Renaissance, c'est quoi? C'est l'homme qui prend la place de Dieu, c'est tout. Et la Renaissance va ouvrir la porte au protestantisme. Ça, c'est Renaissance, c'est 14e siècle, protestantisme, c'est 16e siècle, début du 16e. Protestantisme va ouvrir la porte à la franc-maçonnerie 1717, avec les constitutions d'Anderson, les Aguliers. Et la révolution introduite dans les intelligences par la franc-maçonnerie 1717 va amener la révolution américaine 1776, la révolution française 1789, puis après toutes les. On continue la descente aux enfers avec 1848, 1917. Et malheureusement, après, c'est les hommes d'église qui ouvrent les vannes du barrage, au lieu de retenir toutes ces horreurs pour protéger les âmes, et bien c'est la descente en enfer qui continue avec Vatican II en 1962. Et le démon ne s'arrête pas là. Le démon ne s'arrête pas là. On pourrait croire qu'avec Vatican II, c'est la fin, du fond du gouffre, mais non. Après Vatican II, là, toutes les vannes ont été ouvertes, et là, c'est le début de la révolution contre nature. Ce qu'on voit actuellement, l'infanticide ou l'avortement, c'est pareil. Toutes ces abominations contre nature, tous les péchés contre nature, tous les PMA, les GPA, toutes ces horreurs, les changements de sexe, la théorie du genre, toutes ces horreurs contre nature, tous ces péchés épouvantables. Que l'Église, c'est pas très bien placé, pour ça que l'Église place ces péchés-là dans une catégorie à part dans le catéchisme, des péchés qui crient vengeance contre le ciel. Rendez-vous compte un peu. Mais tout ça pourquoi? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ a été mis sur la touche, voilà. Hein? Donc reprenons cette phrase magnifique, méditez, je vous assure que c'est ces textes de Saint-Jean et ces textes des pères aussi. Hein? Bon, je ne vais pas mettre les pères de l'Église au niveau d'un évangéliste, quand même pas, mais. C'est quand même des phrases clés. C'est par sa puissance qui vous a créé, sa faiblesse qui vous a relevé. Puissance du Christ, ça fait que ce qui n'était pas fut. La faiblesse du Christ, ça fait que ce qui était ne périt pas. Il nous a créés dans la puissance. Il est venu nous rechercher à notre recherche dans sa faiblesse. Nous avançons versets 22 à 27 du chapitre 6 de Saint Jean. Le lendemain, la foule qui était restée de l'autre côté de la mer remarqua qu'il n'y avait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas entré dans cette barque avec ses disciples, mais que les disciples seuls étaient partis. Cependant, d'autres barques arrivèrent de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce. La foule, ayant donc vu que Jésus n'était pas là non plus que ses disciples, monta dans les barques et vint à Capharnaüm cherchant Jésus. Ils l'ayant trouvé de l'autre côté de la mer, et lui dirent: Maître, quand êtes-vous venu ici? Jésus leur répondit: en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez en vue d'obtenir non la nourriture qui périt, mais celle qui demeure pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que Dieu a marqué de son sceau. Là, on voit quand même la hauteur théologique de ce texte magnifique de Saint Jean. On dit que l'évangéliste Saint Jean planait beaucoup plus haut que les autres évangélistes. C'est pour cela que dans l'Église catholique, Saint Jean est représenté par l'aigle. L'aigle de Saint Jean, parce que l'aigle vole beaucoup plus haut que tous les autres oiseaux et survole, si vous voulez, de sa magnificence, sa grandeur, sa puissance de vol, il survole tout le monde. Bon, ça montre justement la hauteur théologique de l'évangile selon Saint Jean. Alors voyons un petit peu les commentaires des pères. Nous sommes en bas de la page 5. Ah, voilà ce que disent les pères. La nourriture matérielle n'alimente et n'entretient que le corps. Et encore n'atteint-elle ce but qu'à la condition d'être renouvelée tous les jours. Mais la nourriture spirituelle demeure éternellement et nous donne une satiété perpétuelle et une vie qui n'a d'autre terme que l'éternité. C'est-à-dire, plus on mange, moins on a faim. Plus on mange, plus on s'alourdit. Plus on a du mal à lutter contre la gravité terrestre, parce que justement on devient de plus en plus lourd. Et plus on mange, plus on ouvre nos âmes à la tentation. Et au contraire, plus on augmente en nous la nourriture spirituelle, plus on aime Dieu. Et plus on mange, plus on mange de nourriture matérielle, plus on est dégoûté de ces choses matérielles, parce qu'on finit par avoir trop mangé, avoir envie de vomir, littéralement. Au contraire, plus on mange des choses spirituelles, plus on se nourrit de nourriture spirituelle, plus on aime Dieu. Donc plus on mange, plus on est malade au niveau des choses matérielles, mais au niveau des choses spirituelles, plus on les demande, plus on les consomme, plus on en veut, et plus on se rapproche de Dieu. Vous voyez? Évidemment, notre connaissance de Dieu est limitée ici-bas, mais au ciel, on connaîtra Dieu beaucoup, beaucoup mieux qu'ici-bas, parce qu'on sera libéré de notre corps, et même après la résurrection des corps, à la fin du monde, eh bien, notre corps sera aurait rejoint l'âme au ciel, mais ce corps ne sera plus un poids mort comme ici-bas. Donc on n'aura plus besoin de les nourrir et des nourritures terrestres. On pourra. La nourriture céleste qui nourrit l'âme au ciel aura, si vous voulez, ne sera pas gênée du tout par le corps, parce que le corps aura pris les privilèges du corps glorieux. Il sera devenu impassible. Il y aura l'agilité, il y aura la clarté, il y aura la subtilité. Tous ces privilèges qu'on voit très bien chez notre Seigneur Jésus-Christ après sa résurrection, c'est pour ça qu'il passe à travers les murs, il rentre dans la chambre haute à Jérusalem où tous les disciples et les apôtres étaient complètement paniqués parce qu'ils pensaient que les Juifs allaient venir pour les crucifier eux aussi. Il passe au milieu des murs, il rentre dans la pièce, la paix soit avec vous. Vous voyez? Et donc, il faut comprendre que notre Seigneur Jésus-Christ va agir sur notre âme aussi de ces façons-là. Il y aura une certaine forme d'impassibilité spirituelle au ciel parce qu'on ne pourra plus. On ne pourra plus souffrir le péché, on ne pourra plus commettre le péché, on ne pourra plus perdre Dieu. Il y aura une espèce d'agilité spirituelle au ciel parce que notre âme sera libérée de toute espèce de frein, en quelque sorte. Il y aura une clarté parce qu'on participera à la luminosité extraordinaire, la dignité, la beauté extraordinaire, la gloire extraordinaire de Dieu. Il y aura cette subtilité qui feront que les choses matérielles ne seront plus du tout un obstacle pour nous. Vous voyez? Donc la nourriture spirituelle demeure éternellement, nous donne une satiété perpétuelle et une vie qui n'a d'autre terme que l'éternité. Voyons au sens mystique maintenant. C'est le lendemain, c'est-à-dire après l'ascension de Jésus-Christ, que la multitude qui s'applique à la pratique des bonnes œuvres et qui cesse d'être esclave des plaisirs des sens attend l'arrivée de Jésus. Oui, c'est au verset 22. Le lendemain, la foule qui était restée de l'autre côté de la mer remarqua qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque. Cette seule barque qui est sur le rivage, c'est l'Église qui est une. Les autres barques qui surviennent sont les conventicules des hérétiques qui recherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. C'est avec raison qu'il leur dit, vous me cherchez parce que vous avez mangé des pains. Donc cette barque, encore une fois, représente l'Église. Et Dieu veut qu'il n'y ait qu'un seul troupeau, qu'un seul pasteur. Donc Dieu veut qu'il n'y ait qu'une seule barque. Et de ceux qui arrivent avec des petites barques qui représentent les conventicules des hérétiques, disent les pères, eh bien, ils doivent abandonner leur petite barque pour monter sur la grande barque. Et puis les petites barques à ce moment-là vont disparaître, abîmées dans les flots de la tempête. Et alors les petites barques ne sont incapables de lutter contre la mer déchaînée. Par contre, si vous arrivez à monter dans la grande barque, il n'y a plus besoin de votre petite barque, votre petite coque de noix, et la grande barque, c'est le calme complet tout le temps.
Parce que la grande barque, la barque de Saint-Pierre, donc l'Église catholique, est tellement grande, tellement vaste, tellement puissante, tellement lourde, que, eh bien, elle reste en constante paix. Vous avez un très gros navire, eh bien, il va fendre les flots, même dans une mer déchaînée, avec très peu de roulage, très peu de tangage. Pourquoi? Parce qu'il est très gros. Au contraire, une toute petite barque va suivre les mouvements des vagues et tout le monde va être malade sur cette petite barque parce que ça bouge de tous les côtés. Imaginez un petit bouchon qui suit la courbure des vagues parce qu'il ne peut rien faire par lui-même. D'accord? Donc cette multitude, c'est la foule, verset 24, la foule ayant donc vu que Jésus n'était pas là, non plus que ses disciples, montant dans les barques et vient chercher Jésus. Donc cette multitude représente encore ceux qui, au sein même de la Sainte Église, s'attirent la haine de Dieu, en recevant les ordres sacrés qui les rapprochent de Dieu, sans s'occuper des vertus qui exigent les saints ordres, et en n'y cherchant qu'un moyen de subvenir aux besoins de la vie présente. Vous voyez? Là, les pères font allusion à ce vice épouvantable de la simonie. La simonie, vendre les sacrements. Les prêtres qui oublient leur fonction sacrée et qui utilisent leur fonction sacrée pour des biens matériels. Pour des biens matériels. La simonie est sanctionnée par une peine d'excommunication très forte. Et il ne faut pas croire que la simonie a disparu, hein. Malheureusement, c'est quelque chose de très fréquent. Mais j'ai eu encore un cas, le dernier mariage que j'ai fait, quelques années là, j'ai eu encore un cas de simonie flagrante dans l'église de Vatican II. Personne, les fidèles qui sont fidèles à moi d'ailleurs, mais qui ont décidé de se marier pour des raisons familiales, ils avaient absolument besoin d'une église parce que l'épouse était convertie au protestantisme, donc la famille protestante est venue au mariage, donc ils ne voulaient pas scandaliser la famille, donc et je n'ai pas pu les marier moi-même parce que moi, je n'ai pas d'église, pas de grande église, j'ai qu'un tout petit oratoire. Donc, ils se sont mariés dans une église de Pagès. Il y a trois églises ici, une jolie petite église, juste à côté de chez moi, l'église Sainte-Germaine. Et quand ils ont vu le curé, il n'y a pas eu de messe évidemment, parce qu'ils voulaient pas, mes fidèles ne voulaient pas la nouvelle messe, ils avaient raison. Mais la première chose que leur a demandé le curé, quand ils sont allés les voir, ils ont d'abord essayé de voir si le curé me prêterait l'église pendant 2 heures pour que je puisse les marier moi-même. Le curé a refusé, évidemment. Mais dès qu'ils ont demandé, écoutez, est-ce que vous pourriez nous marier nous-mêmes, vous-même? Et puis, la première chose qu'a fait le curé, c'est de leur demander 120 euros. 120 euros. On demande de l'argent pour un sacrement. Que les fidèles, d'ailleurs, se donnent eux-mêmes. C'est même pas le prêtre qui donne le sacrement. Le prêtre n'est que le témoin officiel au mariage. Première chose que fait le prêtre, c'est demander de l'argent, 120 euros. Et le jeune marié m'a dit, j'avais à peine quitté l'hôtel, j'avais pas encore quitté l'hôtel, j'allais prendre le bras de mon épouse pour sortir de l'église. Le curé était à côté de moi, me tapait sur l'épaule en disant, vous n'oubliez pas mon chèque. C'est de la simonie, ça. Simonie, c'est un rapport avec le Simon le magicien du temps des Actes des Apôtres. Au début du Nouveau Testament, juste après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, Simon le magicien qui essaye d'acheter le pouvoir des miracles par de l'argent, qui demande à Saint-Pierre, donnez-moi ce pouvoir de me faire des miracles par de l'argent. Et donc il paye, il essaye de payer, de circonvenir Saint-Pierre pour obtenir le pouvoir de faire des miracles par l'argent. C'est ça, Simonie. Le nom Simonie vient de Simon, Simon le magicien. Donc malheur à ceux qui font ça, c'est encore malheureusement des choses très fréquentes. Hein? C'est ça que j'avoue, on l'a un peu reproché d'ailleurs, je fais très très attention à ça. J'avoue que j'ai tellement été choqué, c'est vrai, par des gens qui insistaient beaucoup trop, des prêtres, même dans la tradition, même dans le milieu sédevacantiste, qui insistaient beaucoup trop sur l'argent, nécessité des dons pour pouvoir payer les œuvres. Bon, c'est sûr qu'on a besoin d'argent pour pouvoir payer les factures. Demain, je dois remplir la cuve de gasoil de la maison pour pouvoir chauffer la maison. Ma vieille maman a 91 ans, elle vit dans la maison. Il faut chauffer un peu la maison quand même, un minimum. Pourtant, on ne chauffe pas beaucoup. Eh bien, 1000 litres de gasoil, 1840 euros. Le gasoil est passé, le fuel domestique est passé d'un euro il y a 4 mois à 1,84 € le litre. Il faut que je trouve cet argent. Ben, heureusement, le Saint Joseph s'en occupe et donne les dons dont j'ai besoin. Et pour revenir à ce que je voulais dire, je fais très attention maintenant de ne pratiquement, je ne dis pas un mot même sur le denier du culte. Au sermon du dimanche, ceux qui écoutent mes sermons ont dû remarquer que pourtant c'est la tradition en France de demander le denier du culte pendant le temps du carême. Je ne fais rien. Je refuse de. Je ne parle pas du denier du culte parce que je ne veux pas donner l'impression que je cours après l'argent. Et pire que ça, on me l'a un peu reproché, c'est vrai, mais je fais pas de quête. Je fais pas de quête parce que j'ai une petite chapelle. Bon, au début, quand je suis arrivé ici, j'avais 2 personnes à la messe le dimanche. Maintenant, j'en ai entre 10 et 20. Le dimanche, une quinzaine parfois, au moins 10aine, parfois un peu plus. Je fais pas la quête parce que je ne veux pas donner l'impression aux gens que je cours après l'argent. Et je dirais presque, moins j'en demande de l'argent, plus les dons arrivent. Et quand j'ai besoin de dons importants, là, je savais que j'allais avoir cette grosse facture de. Je ne pensais pas que ça serait aussi lourd que ça. Je pensais que j'en aurais peut-être pour 1200, 1300 euros pour remplir la cuve de gaz, la cuve de mazout pour la chaudière. Et la facture va se révéler à être beaucoup plus salée que ce que j'avais pensé, 1840 euros, à peu près 1,84 € le litre. Donc j'ai 1000 litres à mettre. Eh bien, vous croirez si vous voulez, mais il y a quelques jours, j'ai reçu un don de 1000 euros. J'ai reçu un don de 1000 euros qui va correspondre d'ailleurs à peu près avec l'argent que j'avais déjà mis de côté pour ça. Mais je vais avoir assez pour payer ma facture. D'ailleurs, j'ai remercié la personne qui très gentiment m'a envoyé cet argent. Je l'ai chaudement remercié en disant, vous savez, madame, grâce à vous, grâce à votre don, eh bien, vous me permettez de chauffer la maison. Voyez? Donc le bon Dieu s'occupe de nous. À condition qu'on s'abandonne un petit peu à lui. Vous voyez? Donc, ici, cette allusion très nette à la simonie de ces prêtres qui, dans les saints ordres, ne cherchent qu'un moyen de subvenir aux besoins de la vie présente. Vous voyez? Et le bon Dieu s'occupe de nous de façon extraordinaire. On a toujours ce qu'il faut. On a toujours ce qu'il faut. À nous, évidemment, de vivre dans la simplicité. J'espère que j'ai une vie simple. Les gens qui me connaissent ici, qui viennent ici, vous verront tout de suite que la maison est très simple. J'ai une toute petite chambre, même pas de chauffage dans ma chambre, j'ai un tout petit bureau, mais ça suffit largement pour ce dont j'ai besoin. Vous voyez? Le seul luxe que j'ai, c'est vrai, c'est ma voiture. Comme je fais 60 000 km par an, je change de voiture tous les ans parce que ça me coûte moins cher, ça me permet d'avoir un outil, parce que la voiture est pour moi un outil qui démarre en quart de tour tout le temps, partout, tous les temps, et ce qui fait que ben, je peux faire mon travail correctement, quoi. J'ai besoin d'une bonne monture, quelque sorte. Je peux pas prendre un vieux bourricot tout pourri pour faire 60 000 km par an. J'ai besoin d'une bonne voiture. Bon, ben, je change ma voiture tous les ans parce que ça me coûte moins cher comme ça. Et Dieu me donne les choses dont j'ai besoin, mais pas plus. À condition, c'est très important pour nous prêtres, de ne pas gaspiller ces choses-là par du luxe. La maison ne vit pas dans le luxe au niveau de la nourriture, au niveau des meubles et tout ça, tout est dans la simplicité. Et le bon Dieu bénit justement les religieux qui s'abandonnent un peu à notre Seigneur Jésus-Christ. Hein? Alors, autre commentaire des pères en bas de la page 5. On suit le Seigneur pour le pain dont on a été rassasié lorsqu'on demande à la Sainte Église que les biens et les aliments temporels. C'est un peu le cas de beaucoup de gens qui ne prient, qui se retrouvent à prier que lorsqu'ils sont dans le manque corporel. Alors voilà, on prie jamais et puis il y a un petit bouton de fièvre qui commence à apparaître. On a peur que ce soit un cancer. Hop, on se remet à prier d'un seul coup. Ah mon Dieu, faites s'il vous plaît que ce petit bouton ne soit pas un bouton cancéreux, qui est pas un début de cancer qui m'attaque. On oublie tout. On se remet à prier uniquement pour les choses temporelles. Et puis dès qu'on va voir le médecin, que le médecin dit, mais non, c'est rien du tout, c'est une petite excroissance de la chair, c'est rien du tout, c'est un truc complètement bénin, rassurez-vous, c'est pas une tumeur maligne. Ah bon, et on arrête de prier. Le bon Dieu, il n'aime pas beaucoup les catholiques qui ne prient que dans les besoins matériels. C'est malheureusement. Très fréquent, on cherche le bon Dieu, non pas à cause du bon Dieu, mais à cause des douceurs naturelles, je dirais, que le bon Dieu procure. Vous voyez? On ne cherche pas le Dieu des consolations, on cherche les consolations du bon Dieu. Vous voyez? Un malheur donc à celui qui ne demande à la Sainte Église que les biens, les aliments temporels. Bien sûr, il faut aussi les aliments temporels. Le bon Dieu, qui s'occupe, est-ce que les fleurs des champs, les lys des champs et toutes leurs parures au printemps, il va s'occuper des âmes, aussi des corps. Il ne va pas simplement s'occuper des âmes en disant débrouillez-vous pour les corps. Il donne aussi pour les corps les choses dont nous avons besoin, mais sans donner des choses qui ne sont pas nécessaires. Oui. Donc attention à ne pas rechercher un intérêt purement matériel. Bon, bien sûr, on a le droit de prier aussi pour les choses matérielles. Hein. Un père de famille a le droit de prier en disant, mon Dieu, j'ai vraiment bien du mal à finir les fins de mois en ce moment parce que les rentrées d'argent se font épars. S'il n'y en a pas beaucoup, s'il vous plaît, aidez-moi à pouvoir nourrir mon épouse et mes enfants et payer mes factures. Il a le droit de le faire. Mais en comprenant que les choses spirituelles passent avant. Ça sert à quoi d'avoir tout l'or du monde et avoir perdu notre Seigneur Jésus-Christ? Que sert à l'homme de gagner le monde s'il vient à perdre son âme? D'ailleurs, on peut dire que tous les gens qui ont trop de biens matériels, les gens qui ont des richesses qui dépassent des sommes astronomiques, les millionnaires, les milliardaires, en général, c'est un très mauvais signe pour l'état de l'âme. Les milliardaires en état de grâce, je ne sais pas s'il y en a beaucoup. Bon. Passons à la page 6. Nous voyons ici en figure que les conciliabules des hérétiques, donc je vais vous expliquer que ces petites barques, donc les gens viennent, voyant que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas là, ils montent dans les barques et vont à Capharnaüm, de l'autre côté du lac. Et donc ces petites barques, disent les pères, je viens de citer le texte, représentent les conciles des conventicules des hérétiques. Les autres barques qui surviennent sont les conventicules des hérétiques qui recherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Nous voyons ici en figure, page 6, que les conciliabules des hérétiques ne peuvent avoir pour hôte ni Jésus-Christ ni ses disciples. Ces autres barques qui surviennent, ce sont les hérésies que l'on voit surgir tout d'un coup. Donc elles butent contre le gros navire qui est le navire de l'Église et elles cherchent en quelque sorte à entraver sa route. Et l'Église continue. Les seuls hérétiques qui vont se sauver sont ceux qui vont accepter de monter, d'abandonner leur barque, donc abandonner leur volonté propre, abandonner leurs conventicules hérétiques pour monter dans le sein de l'Église catholique, abandonner leurs hérésies et se convertir dans la foi catholique. Et à ce moment-là, leur petite barque ne sert plus à rien, elle disparaît dans les flots. Vous voyez? Donc cette foule qui reconnaît que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, représente ceux qui, reconnaissant les erreurs des hérétiques, les abandonnent pour venir embrasser la vraie foi. De l'eau du puits, le Christ mena la Samaritaine à l'eau spirituelle. Pour pouvoir enseigner à ceux qui le suivaient fidèlement, surtout les prêtres et les religieux, de faire la même chose pour mener leurs auditeurs des choses corporelles aux choses spirituelles. Il faut monter les gens, leur faire monter, les faire monter. Monter plus haut, doctrinal tout, monter plus haut, monter vers les choses spirituelles. Bien sûr, il faut aussi s'occuper des choses matérielles. Hein. Quand quelqu'un, un hérétique, vient moins de faim à ma porte, bon, je ne vais pas lui demander, vous êtes protestant, bouddhiste ou juif, ben, je le nourris. Et si je peux, je le nourris. Quand quelqu'un pauvre me demande l'aumône, bon, si je peux, je lui donne quelque chose, je ne vais pas lui faire un cours de catéchisme. Je commence par le nourrir, mais si j'ai après une occasion d'élever un petit peu son âme, ben je le fais. Et je le fais, ça arrive parfois, c'est relativement rare, mais ça peut arriver qu'on puisse faire un peu de travail justement avec ces gens. Donc, le bon Dieu passe des choses corporelles pour monter aux choses spirituelles, monter vers le haut. Vous voyez? Alors, ce n'est pas un péché de se préoccuper des choses de la chair. Encore une fois, j'ai connu un petit peu ce genre d'erreur qui est peut-être assez grave dans les familles où les pères de famille ne s'occupaient pas assez des choses matérielles de la maison. Oui, on dit, oh, ce qui compte, c'est les âmes. Et puis, ben, il n'y a pas que les âmes, il y a aussi les corps. Un père de famille a un devoir sur les âmes, mais il n'a pas qu'un devoir que sur les âmes. Il a un devoir aussi sur les corps de ses enfants. J'ai connu une famille, hein, comme ça, à l'autre côté du monde, où. Le père s'occupait très bien des âmes, mais ne s'occupait absolument pas des corps. Et la maison, c'était une porcherie. Il n'y a pas d'autre mot. Une véritable porcherie. Jamais vu une maison si sale. Et les poules dans la maison. La paille dans la maison, la boue dans la maison, c'était jamais lavé, jamais balayé, jamais passé, jamais l'aspirateur, une porcherie. Bon, eh bien, il s'occupait très bien des âmes de ses enfants. Les enfants connaissaient le catéchisme au bout du doigt. Ah oui, mais il faut peut-être aussi s'occuper un peu des choses matérielles. La Sainte Vierge Marie s'occupait de l'enfant Jésus, mais je suis sûr qu'elle faisait aussi son devoir d'épouse, son devoir de mère de famille. Elle était mère de l'enfant Jésus, elle était épouse de Saint Joseph, elle devait nettoyer la maison, elle devait faire la vaisselle, elle devait faire le linge de Saint Joseph, son linge personnel, le linge de l'enfant Jésus, pour remplir ses fonctions aussi matérielles. Il ne faut pas oublier tout ça. Voyez? Et donc, il ne faut pas s'occuper que des choses spirituelles. Il ne faut pas dire ce qu'on entend parfois, ah mais Dieu pourvoira. Attendez, Dieu pourvoira, mais aide-toi, le ciel t'aidera, comme c'est La Fontaine qui disait ça, je crois, aide-toi, le ciel t'aidera, mais il faut aussi remplir nos responsabilités, donc s'occuper aussi des choses matérielles. Moi, j'ai connu des prêtres comme ça, oh là là, c'était une catastrophe. J'ai pris une fois une chapelle comme ça, à New York, où je suis arrivé après un prêtre qui faisait vraiment un bon travail sur le plan spirituel, mais il s'était absolument pas occupé des choses temporelles. Alors, la comptabilité n'avait jamais été faite. Je me suis retrouvé avec 10 ans de comptabilité. J'ai dit à mes supérieurs, je vous l'ai peut-être déjà donné cet exemple, j'ai dit à mes supérieurs, écoutez, moi je prends la comptabilité là où elle est. Il me dit non, il faut rattraper la 10 ans de comptabilité. J'ai dû commencer par m'envoyer 10 années de comptabilité parce que ça n'avait jamais été fait. Mais le prêtre avait manqué ses devoirs. Il n'y a pas que des devoirs spirituels. Moi ici, j'ai une maison, je la loue. Mais il faut que je m'occupe aussi des choses temporelles. Il faut que s'il y a une fuite d'eau, il faut s'en occuper. J'avais une chasse d'eau qui était. La fosse septique était complètement bouchée. Les matières ne s'évacuaient plus du tout. Mais je m'en suis occupé. Je m'en suis occupé. Bon, en passant par le propriétaire de la maison, bien sûr, qui avait d'ailleurs fait son travail très bien. Et puis, je m'en suis occupé. Bon, si j'ai un problème d'une fuite d'eau, une fuite de radiateur, tous les radiateurs fuyaient quand je suis arrivé ici, je m'en suis occupé parce que c'était mon devoir d'État. J'ai pas dit, oh, moi je m'occupe que des choses spirituelles, et puis les gens qui s'occupent des choses matérielles, c'est les gens qui sont trop préoccupés par les choses matérielles et qui oublient le bon Dieu. Non, le bon Dieu demande de s'occuper aussi du corps. Donc il faut le laver, il faut le nettoyer, il faut s'occuper du corps. Il faut pas trop s'en occuper, il faut s'en occuper. Il peut y avoir une faute morale pour des gens qui ne se soignent pas, alors qu'ils devraient se soigner. Comme disait Monseigneur Lefebvre, la première condition pour être un bon prêtre, c'est d'être vivant. Il dit, vous êtes mort. Bon, on peut peut-être faire vous êtes peut-être aller au ciel, mais vous ne pourrez plus faire de bien sur la terre. Bon, donc il faut s'occuper aussi des choses temporelles, mais les laisser à leur place. Vous voyez? Mener les auditeurs des choses corporelles aux choses spirituelles. Citation de Saint Cyrille. Il ne faut pas nous préoccuper des choses de la chair, mais des choses nécessaires pour l'éternité. Ceux qui ne se préoccupent que des choses corporelles ne se différencient pas des animaux, mais les autres qui s'attachent à la nature et mènent une vie selon la loi spirituelle, totalement donnés aux choses divines, se préparent un chemin vers les choses d'en haut et comprennent qu'ils ont été faits à l'image de leur Créateur. Vous allez me dire, mais monsieur l'abbé, vous dites ça, mais les grands saints, ils se nourrissaient que du Saint-Sacrement, de la Sainte Eucharistie, et ne s'occupaient pas des choses matérielles. D'ailleurs, Saint Curé d'Ars, c'est le patron de tous les curés, et Saint Curé d'Ars, il prenait une patate pourrie tous les jours. Bon, c'est tout ce qu'ils mangeaient. Vous devriez faire pareil. Ah bon? Mais moi, si je prends une patate pourrie tous les jours, je deviens fou et je rends tous les gens fous autour de moi. Et puis, physiquement, je n'irai pas le coup. Bon. Ah, mais vous n'avez qu'à demander les grâces. Le bon Dieu, il ne demande pas des choses impossibles. Et lorsque le vicaire, l'abbé Taillade, le vicaire qui avait été donné Saint-Curé d'Ars, a voulu faire comme son curé, et que le curé s'en est aperçu parce que les fidèles l'avaient vu que le beau vicaire est en train de dépérir à vue d'œil parce qu'il essayait de faire les mêmes pénitences que son curé. Eh bien, le curé a vite placé le holà en interdisant évidemment à son vicaire de faire les mêmes pénitences que lui. Et elle lui a dit, moi j'ai des grâces spéciales que vous n'avez pas. Bon, j'aimerais bien pouvoir me nourrir comme Saint Curé d'Ars, c'est sympathique, ça, on gagnerait beaucoup de temps. Mais ce n'est pas ce que bon Dieu veut. Le bon Dieu demande un minimum. Bon, il faut savoir de temps en temps lâcher un peu du lest pour que le corps, le frère Anne, puisse continuer de porter le bonhomme. Hein. Alors, où est-ce que j'en suis? Non, les gens, je reprends ce texte de Saint Cyrille, Ceux qui ne se préoccupent que des choses corporelles ne se différencient pas des animaux. Mais les autres qui s'attachent à la nature et mènent une vie selon la loi spirituelle, totalement donnée aux choses divines, se préparent un chemin vers les choses d'en haut et comprennent qu'ils ont été faits à l'image de leur Créateur. Nous avons été faits à l'image de notre Créateur par l'âme, pas par le corps, puisque Dieu est un pur esprit. Oui. Mais le bon Dieu nous demande de s'occuper du frère Anne, s'occuper du corps aussi. Bon. J'ai connu des familles qui étaient très imprudentes dans ce domaine-là, par exemple, qui refusaient de soigner les enfants. Sous prétexte qu'on était contre les médicaments multipliés, je suis un petit peu d'accord, il faut faire très attention à ces choses-là. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas soigner les enfants. Bon, et dans certains cas, il faut avoir le courage de s'occuper des corps de ses enfants. Si vraiment il y a un cas grave, ben, il faut, dans certains cas, accepter de passer à l'hôpital. Moi, quand je suis tombé dans mon escalier parce que mon tendon quadricipital m'a lâché, ben, ça ne me plaisait pas du tout. J'ai bien dû aller à l'hôpital et on m'a très bien soigné d'ailleurs. On continue ce commentaire sur le chapitre 6, verset 22 à 22 à 27. Le sceau du Père. Le Fils a le caractère de l'hypostase de Dieu, le Père. L'hypostase, c'est la personne. Hypostase et personne, c'est deux mots synonymes. C'est du grec. Le Fils a le caractère de l'hypostase de Dieu, le Père. Et ce caractère n'est rien d'autre que la même forme et la substance de la divinité. Donc les trois personnes ont trois hypostases différentes, mais dans une unité de substance. Elles sont, les trois personnes, en trois hypostases, l'hypostase du Père, l'hypostase du Fils, l'hypostase du Saint-Esprit, ont une unité substantielle. Les trois personnes sont consubstantielles. L'humanité est scellée par la divinité du Fils, par cette voix venue du ciel le jour de son baptême. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Donc, on va attendre cette phrase prononcée par Dieu le Père au baptême de notre Seigneur Jésus-Christ par Saint-Jean-Baptiste. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. On va le réentendre la même phrase. Au jour de la transfiguration, c'était l'évangile du dimanche dernier, du deuxième dimanche après le carême, la transfiguration, notre Seigneur se transfigure devant ses disciples, Saint-Pierre, Saint-Jacques et Saint-Jean, et on entend cette voix du ciel, celui-ci mon fils bien-aimé. Il a prouvé et démontré qu'il était vraiment le fils de Dieu par ses miracles, il confirma qu'il était le Messie promis, qui donne une nourriture convenable à tous ceux qui désirent la vie éternelle, gagnant auprès d'eux l'autorité d'enseigner, de faire des lois, de fonder une nouvelle église. Donc c'est tous les pouvoirs de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est chef de son église, parce que son église, c'est son corps mystique. Donc notre Seigneur Jésus-Christ a un pouvoir législatif, un pouvoir judiciaire, un pouvoir coercitif. Il a le pouvoir de faire des lois, il a le pouvoir législatif, pouvoir de juger selon ses lois, pouvoir judiciaire, et pouvoir coercitif, attention, pas oublier. Pouvoir coercitif, c'est quoi ça? La coercion, c'est l'obligation. Donc il y a le pouvoir de juger, pouvoir de faire les lois, pouvoir de juger selon ces lois, et le pouvoir d'obliger les gens à suivre les lois. Ça sert à quoi de juger si on ne peut pas mettre les bandits en prison? Ou qu'on condamne les bandits et puis on les laisse en liberté. C'est ce qui se passe en France aujourd'hui. Regardez un peu la pagaille. Vous voyez donc, attention à ces choses-là. Vous voyez donc, il faut nous aussi avoir donc ce désir de trouver Dieu, vous voyez, même si au début, on voit très bien dans le texte de l'évangile là, que les gens suivent notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'ils ont été rassasiés, parce que Dieu a fait ce miracle. N'oubliez pas que tous ces passages suivent la multiplication des pains. Notre Seigneur Jésus-Christ a nourri 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, avec quelques poissons, quelques pains. Et donc, ils ont été émerveillés par ce miracle, ils ont nourri, se remplit l'estomac, et du coup, ils cherchent notre Seigneur Jésus-Christ, peut-être d'abord pour des choses matérielles, parce qu'ils ont bien été nourris, qu'ils veulent encore avoir un peu plus de nourriture physique. Et notre Seigneur Jésus-Christ va les monter du niveau corporel au niveau spirituel. Vous voyez? Ça qu'il faut arriver à comprendre. Donc, ce n'est pas un péché de chercher notre Seigneur Jésus-Christ aussi pour à cause de besoins temporels. Ce n'est pas un péché. Mais il faut comprendre que le bon Dieu nous demande dans bien des cas de ne pas oublier le bien. Le bon Dieu nous demande toujours de ne jamais oublier les biens spirituels et de faire passer les biens spirituels avant les biens temporels. S'occuper du corps, très bien, mais le corps est au service de l'âme et pas l'inverse. Voilà, donc je vais arrêter là. Ça fait déjà une heure que je vous enseigne. Il faut encore au moins deux ou trois conférences pour finir le chapitre 6 de Saint Jean. On y va doucement, mais ces passages sont magnifiques. Donc terminons par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.